RMC, cours numéro 1.
You cannot be serious! That ball was on the line!
Ça sort, c'est fini! La France remporte la Coupe des Villes! Allons!
Anthony Reich.
Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1, le podcast tennis d'RMC, évidemment disponible sur toutes vos plateformes de téléchargement. Comme toutes les semaines, n'hésitez pas à vous abonner à cours numéro 1 sur toutes vos applis et puis cocher les petites notifications, comme ça vous recevrez tous nos épisodes hebdomadaires, nos séquences cultes, nos effets rétro que l'on a repris avec beaucoup de plaisir en cette saison 2026. Et encore une fois, mille merci, on vient de faire un mois d'avril exceptionnel, donc c'est grâce à vous, mille merci de votre fidélité. La team tennis est réunie comme chaque semaine. Et oui, nous sommes à 3 semaines. Dans 3 semaines, nous serons où Arthur Fils sera placé dans le tableau final de Roland-Garros. Et mes acolytes sont là. Salut Sarah. Salut Sarah Pitkowski.
Salut à tous. Salut Anto.
Bon, ça y est, hein, le compte à rebours est lancé. 3 semaines.
Ouais, absolument. Ouais, 3 semaines.
Et on va pouvoir faire tous les scénarios ensemble, on va pouvoir épiloguer sur ce tableau final et ce tirage qui aura de lourdes conséquences ou de très bonnes conséquences pour Arthur Fils notamment. Il est en Normandie au bord de la mer, on lui a laissé quelques jours de répit parce que le tunnel de l'Ocre va s'intensifier dans quelques jours. Salut Morico, salut Eric Salio.
Salut à tous, c'est la pleine mer en Normandie, c'est magnifique.
Ah, il fait beau.
Il y a des rouleaux.
C'est Est-ce que tu as trempé les pieds?
Je pense qu'elle est assez froide et je suis assez frileux, malheureusement.
Pendant mes vacances, je me suis baigné, moi, à Cabourg. Écoute, elle était bonne. Voilà.
Oui.
Écoute.
À Cabourg, t'étais?
Ouais.
Oh non, mais elle était à 15.
Ouais, mais 15, c'est bien. Ça vivifie un peu, tu vois. Paf! Ça réveille.
Non, je peux pas, là. Je peux pas. Pourtant, je suis né en Normandie, mais...
Bah oui, toi, le Normand, 15, champion de l'Orne.
Oui, c'est vrai. 15, c'est beaucoup trop... Non, c'est pas assez trop.
Allez, les amis, on va parler de cette saison sur Terre, le tournoi de Madrid, qui tient ses promesses, notamment pour Arthur Fils, qualifié pour les demi-finales face à Yannick Sinner, le numéro 1 mondial, le forfait d'Alcaraz, les conséquences de l'absence du double tenant du titre pour le tournoi de Roland-Garros 2026. Plein de choses dans le menu de cours numéro 1 cette semaine. C'est parti. On reviendra également aussi, les copains, en fin d'épisode, sur les nouvelles de nos chances tricolores pour Roland-Garros. On parlera de Loïs Boisson et puis aussi du tableau des qualifications qu'on connaît déjà un petit peu avec la liste des inscrits. Mais tout d'abord, ce qui nous intéresse, c'est le tournoi qui dure en ce moment même du côté de Madrid, ce Masters 1000, les copains. On est au stade des quarts demi-finales en fonction des tableaux. Votre impression générale, Sarah, qu'est-ce qui te plaît dans ce tournoi? Quel joueur t'impressionne et quel joueur t'ont déçu sur ces 8 gros premiers jours?
Oh bah, ça va être facile, hein. Celui qui m'a impressionné, c'est celui qui est en train de nous impressionner, c'est Arthur Fils. Il est d'une sagesse, d'une sérénité. C'est-à-dire qu'on a plus l'impression qu'il a 21 ans, on a l'impression qu'il en a 30. Voilà. Il a eu 6 mois d'arrêt et en 6 mois, il a grandi 10 ans. en tout cas, il a pris 10 ans de maturité. Donc voilà. Après, en déception, j'ai pas une grande déception, mais j'ai une petite interrogation quand même sur Sinner, quoi. Où est vraiment son niveau de jeu? À surveiller. Après, j'ai quand même c'est pas un petit coup de cœur, mais ça me fait du bien, même s'il a perdu. C'est peut-être qu'on est en train de retrouver Tsitsipas.
J'allais le partager, tu vois. Je trouve qu'il rejoue bien.
Ouais, franchement, parce qu'il manque, hein. Il manque, et surtout sur terre battue,
bien
il
sûr.
Manque. Donc bon, il était à 2 balles de match de battre le tenant du titre Rude. Voilà, peut-être qu'on est en train de le retrouver et c'est peut-être la bonne nouvelle.
Ouais, c'est certainement la bonne nouvelle en vue de Roland. Il est peut-être en train de redevenir un joueur de tennis. Morico, de ton côté, qui t'impressionne le plus là, sur ce deuxième gros rendez-vous de la saison sur terre?
Alors j'ai l'impression qu'il y a une sorte de brassage, de renouvellement à la fois chez les filles et chez les garçons, et ça me plaît beaucoup. Mm-hmm. Et puisque Sarah ne l'a pas abordé, je vais le faire pour elle. je suis sous le charme de l'américaine Hayley Baptiste, qui a battu Zabalenka. Et pour tout vous dire, mardi soir, j'étais dans un bar avec mon fils, on regardait Bayern, PSG. Et j'avais un œil sur mon téléphone sur ce match fantastique remporté par Hayley Baptiste, parce que Cette fille, elle a un jeu absolument extraordinaire, elle varie. Et j'ai l'impression qu'elle a le revers à deux mains, elle a l'air de ne pas y toucher, de Nick Kyrgios. Et c'est vraiment une fille qui est à suivre. Donc ça, c'est mon coup de cœur dans le tableau féminin. En plus, il n'y a plus personne dans le tableau. Donc je trouve ça génial, à part Mira Andreeva. Mais sinon, chez les garçons, je trouve que Alexander Bloks est une sacrée révélation. C'est un jeune Belge qui avait gagné l'Open d'Australie 2023. Il a le visage de Raonic. Il a le visage de Raonic, je trouve. C'est un nouveau Raonic.
Il y a un petit coup.
Et c'est vraiment un garçon à suivre. Et je suis convaincu que ce jeudi, il peut causer de gros problèmes à Casper Ruud. Oui, je vous rejoins aussi. Hein. Tsitsipas, ça fait du bien de le revoir. Bon, il n'a pas la réussite parce que... Il perd en ayant balle de match à Munich, il perd en ayant balle de match face à Casper Ruud. Mais je ne suis pas étonné, je vous confie une anecdote. À Monte Carlo, le samedi midi, je me baladais sur les cours d'entraînement, puis j'avais un rendez-vous avec les juniors français, et il y avait donc un junior français qui tapait avec Tsitsipas. Et je me disais quand même, Tsitsipas, tu vois, il lâche pas, quoi. Et ça frappait très fort, le pauvre français était à la rue. Et je me suis dit, c'est pas possible que ça ne paye pas pour Tsitsipas. Donc on est content pour lui, même s'il est encore très loin au classement, mais c'est un garçon qui ne sera pas bon à prendre au premier tour à Roland, c'est évident.
Oui, c'est sûr. Après, moi, dans les satisfactions, mais je vais encore être un petit peu circonspect, c'est Raphaël Rodard. Je l'ai vu. Alors, évidemment, on en parle beaucoup de ce jeune Espagnol. D'ailleurs, vous avez fait le portrait de la semaine, Morico, avec Johan Bredov. Ouais. Je l'ai vu éparpillé par moments Fonseca et surtout Alex de Minaur. Alors, moi, j'ai quand même l'impression qu'on est sur la face d'un joueur qui surjoue, un petit peu. Même s'il a des qualités exceptionnelles et qu'il impressionne la planète tennis en ce moment, ça fait du bien aussi de revoir. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on voit beaucoup de nouveaux profils, comme tu disais, Eric, ces dernières semaines, ces derniers mois. Et ça, c'est bon pour justement le vivier tennis, qu'on ait de nouvelles têtes d'affiche qui fassent du bien au tennis et qu'on ait de nouvelles rivalités, des jeunes qui puissent bousculer les tauliers de ce circuit. Ça va faire que du bien au tennis mondial, Sarah.
Ça va faire du bien. Alors moi, je les ai pas tous vus jouer, mais oui, ça fait du bien qu'il y ait de nouveaux visages qui arrivent. Après là où jusqu'où ils peuvent aller, je ne sais pas. Mais c'est vrai que au-delà des deux que sont Sinner et Alcaraz, tu te dis quand même qu'il y a un fossé. Et donc, qui dit qu'il y a un fossé, il y a des places à prendre. Zverev, Medvedev, Oji Aliassime, je viens de penser, celui qui quand même déçoit beaucoup sur terre battue, c'est Musetti en ce moment. Hein.
Ouais. Oui.
Ouais. Musetti, il ne tient pas du tout son rang. Hein. Lui, à prendre à Roland-Garros au premier tour, ce n'est pas une si mauvaise tête de série que ça. Hein.
Tout à fait.
Je dirais qu'il y a de la place à prendre dans les 15, même les 10 premiers, où tu as quand même l'impression que ça bouge. Voilà, que ça bouge. Donc, il y a de la place à prendre. Après, est-ce qu'effectivement, les Jodar, les Blocks, alors, je n'ai pas du tout vu jouer Blocks. Hein. C'est les prochains tournois qui vont nous le dire. Hein.
Eric, tu voulais ajouter
quelque chose? Non, mais Anto, là, je vais te provoquer un peu volontairement, mais... Le match d'hier, Sinner-Rodard, c'était du très haut niveau. Et pour que Sinner, tu sais, quand ils ont l'habitude de signer à la caméra, là, derrière, pour que Sinner mette « what a player », c'est qu'il n'a pas été serein, parce que je crois qu'il sauve 7 balles de break, et je les ai revues, les balles de break, il fait quasiment des miracles sur les 7 balles de break. Donc, Rodard, c'est un énorme danger, et je ne pense pas que ce soit un garçon surcoté, mais non, c'est un garçon qui va performer, c'est évident, à Roland. J'ai encore une interrogation sur son physique, parce qu'il avait crampé contre Arthur Fils à Barcelone. Il a crampé aussi lors de son troisième tour, je crois. Et hier, j'ai encore vu le médecin arriver avec une petite fiole magique, la jaune.
Jus de cornichon.
C'était le jus de...
Le jus de cornichon.
Voilà. Donc je pense que le garçon, il n'est pas encore mûr pour
Déjà, on péter va un on gros va truc le voir. En chelem. Et puis on va le voir en chelem, là, Roland. Roland Garros, on va voir ce que ça va donner.
Je pense qu'il peut souffrir à Roland.
Oui, exactement, sur un format de 5-7. En parlant de Roland, justement, et on va revenir sur Arthur Fils, parce que c'est l'événement de cette fin de semaine du côté de Madrid qui nous intéresse tout particulièrement. Il va défier en demi-finale. Au moment où on fait ce podcast, les amis, évidemment, nous, on est jeudi, donc la demi-finale sera ce vendredi. Il va défier le numéro 1 mondial, Yannick Sinner. Sarah, tout simplement, question très basique, peut-il taper Yannick Sinner?
Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoute, de ce qu'il montre, en tout cas, j'ai très, 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 très hâte de voir le match. Vraiment très hâte de voir le match. Je le mets pas favori, mais c'est pas irréalisable. C'est pas irréalisable, surtout sur un match en 3-7.
Qu'est-ce qui te fait dire ça?
Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que... c'est, en fait, cette sérénité qui dégage, le fait de ne pas être... de ne pas être pressé, de ne pas être en surrythme, de ne pas... comme si finalement les vitesses de jeu adverses, les coups de bourre adverses, finalement, peu importe l'adversaire, on a l'impression qu'il est dans son tennis et que... Et il l'a dit, hein, et qu'il sait, quoi qu'il arrive, dans chaque match, il y a des opportunités. Et qu'en fait, tu sens qu'il a la maturité aujourd'hui pour voir l'opportunité et de se dire... Je vais mettre tout en œuvre pour la prendre, cette opportunité. Donc, en fait, face à d'autres joueurs comme il a en ce moment, bah, ça fait des 2-7 parce qu'en fait, il sert le jeu. Face à Sinner, il aura une opportunité. Donc, de là à lui shipper son jeu de service, d'aller shipper un set et puis après, tu ne sais pas trop ce qui va se passer. C'est pour ça que je lui mets quand même une petite chance. C'est pas tant son tennis, c'est cette faculté aujourd'hui à bien jouer les momentum du tennis et à les prendre, en fait, et à prendre toutes les opportunités qui se présentent.
Et Eric, pour prolonger sur cette question, Rico, moi j'ai aussi l'impression, tu vas nous dire ce que tu en penses, que c'est, comme disait Sarah, c'est cet état d'esprit qui fait qu'on a un Arthur Fils totalement différent, capable de taper Yannick Sinner.
Mais il est d'une sérénité absolument incroyable, effectivement. Et on l'a souvent dit, il a fait des choix très opportuns tout au long de cette année, et ça paye à chaque fois. Et mine de rien, il est en train d'écrire l'histoire de France, parce que je vais peut-être vous poser une colle. Mais... Donc là, il est sur deux demi-finales d'affilée en Masters 1000, Miami,
tout à fait.
Et Madrid.
Mm-hmm. Et un titre au milieu.
Et ça remontait à Caen, la dernière fois qu'un Français avait aligné deux demi-finales d'affilée en Masters 1000. Je vous pose la question.
Sébastien Grosjean.
Non, encore plus loin que ça.
Ah.
Encore plus loin que ça? Bah, Yannick Noah, alors.
Non, c'est Guy Forget en 92, Stockholm-Bercy. Oh. Et juste avant, il y avait Henri Lecomte qui avait fait Monte-Carlo et Hambourg.
Grosse stat.
Donc, donc le mec, il est en train de marquer les esprits. Et vous avez noté quand même qu'il a un parcours un peu similaire à Barcelone. Il a une entame de tournoi très difficile.
Un peu diesel,
il a de sauter. Et pareil à Madrid.
C'est vrai.
Contre Bouzeux, il est passé tout près de la catastrophe, puisqu'il était breaké au milieu du troisième.
Tu pourrais dire qu'il passe tout près de la catastrophe. Mais en fait, ce qui est très satisfaisant, c'est que tu sais que même si à un moment ça ne se passe pas comme il faut, ou en face, tu as un joueur qui est en surchauffe, parce que ça arrive de jouer un mec qui est en surchauffe, eh bien, il n'y a pas panique en la demeure, en fait. C'est-à-dire que tu sais que sur la longueur, il va pouvoir reprendre les rênes du match, que, comme je le disais il y a quelques instants, des opportunités, même sur un mec qui est en chaleur, qui est en surchauffe, elles arrivent, mais que lui, il a cette sérénité, ce détachement, cette confiance. Je pense qu'il a confiance en son tennis, mais surtout, il a super confiance en son physique. Ce qui fait que peu importe comment le match se déroule, finalement, il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé de le faire, le break, parce qu'il sait que ça va arriver, que lui tient sur la longueur. Et puis, il y a quand même une chose. Il a quand même sacrément progressé en revers. Il y a plus de lacunes techniques du tout. Il a un panel de coups du tennis qui lui permet finalement d'aller piocher ce qu'il a besoin, quoi.
Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai l'impression que ce revers était naturel. Moi, j'avais le sentiment qu'avant, il pêchait plutôt côté coup droit. Il en emplâtrait beaucoup. Par précipitation.
Ouais, il descend très souvent.
Oui, mais c'était pas ça.
Les revers, en fait. Mais il l'avait dit il y a pas longtemps, mais il peut en faire des milliers, il fera pas de faute. Moi, je trouve que c'est son coup le plus sûr.
Ouais, mais il va le chercher le long de ligne plus souvent maintenant, quand même.
Ah, ça, d'accord.
C'est-à-dire que,
mais il fait pas une faute.
Il a étoffé son panel. Oui, absolument.
Oui, et puis il a aussi amélioré énormément ses zones de sa qualité de service. C'est là où il a le plus progressé pendant cette période de, d'absence, mais mine de rien. Hein, donc, il a beaucoup plus d'armes en sa possession pour aller chercher un Yannick Sinner. On n'en a pas encore parlé dans Cours numéro 1 ensemble, les copains. On parle d'Arthur Fisla sur Terre parce que, évidemment, suite au forfait de Carlos Alcaraz pour Roland-Garros, qui a été le dernier séisme de la planète tennis, la donne est totalement redistribuée hein, pour le tournoi Porte d'Auteuil. Je vais vous poser une question très simple, également là aussi. Est-ce que Arthur Fils peut ne plus être le troisième homme, mais le deuxième homme de ce Roland-Garros 2026 ? Sarah ?
Là, je vais pas te répondre le oui, parce qu'en fait, comme il a pas été en deuxième semaine de Grand Chelem, si, à Wimbledon, huitième. Mais ce que je veux dire, il n'est pas régulier en deuxième semaine de Grand Chelem. C'est des matchs en 5-7. Je pense qu'il y a encore pas mal de points d'interrogation qui font qu'aujourd'hui, dire de lui qu'il est le deuxième homme, ça voudrait dire qu'on ait des certitudes. Et moi, j'en ai pas assez sur des matchs en 5-7 et sur un tournoi sur 15 jours. Voilà.
Eric, de ton côté ?
Bah déjà, deuxième homme, ça sous-entend finale, donc c'est ça. Bon, bah, ça va dépendre du tirage au sort, on est tous d'accord là-dessus.
Oui, évidemment. Mais moi, je vous provoque, c'est volontaire.
Oui, oui. Non, mais, bah, oui. Mais moi, je suis très fébrile avant le tirage au sort parce que.
Oui, je sens que tu transpires de plus en plus.
Ouais,
plus
non, semaines, c'est plus, c'est un moment ultra important parce que là, on peut en parler. Les projections sont très intéressantes. Il est 17e au live ranking. Mm. Ça veut dire qu'il est virtuel tête de série numéro 16, puisque donc on écarte Karitos, puisque Karitos ne sera pas au coup d'envoi. Bon, vous connaissez les règlements en grand chelem. Hein. Quand tu es tête de série numéro 16, tu joues forcément un top 4 en 8e de finale. Bon, ça. Donc finalement, c'est un statut qui est sympa, mais pas si sympa que ça. Mais bon, souvenez-vous, quand on avait fait un podcast juste avant Monte-Carlo et qu'on venait d'apprendre son forfait, moi j'étais le premier à dire « Mais oulala, mais attention, il ne sera jamais tête de série à Roland !» Vous avez vu ? Vous avez vu le travail ? Ouais. Le mec, il nous a tous bluffés parce que là, il a pris un nombre de points incroyable.
Et c'est pas fini.
J'ajoute qu'il est 4 à la race. Alors, il sera peut-être 5 lundi, ça va dépendre de si des mecs derrière performent, mais il y a très grande chance qu'il soit 4 à la race lundi en n'ayant pas joué au mois de janvier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Faites sa moyenne de points sur les 3 derniers mois, c'est juste colossal. Donc, c'est un garçon qui est dans une dynamique extraordinaire.
D'ailleurs, il est quatrième à la race. Hein. Alors, on se parle.
C'est ce que vient de dire Eric.
En février, mars, avril. Oui. Pardon, excuse-moi.
Non, mais c'est pas grave, ça. T'inquiète, hein, fais le podcast avec nous, il n'y a pas de problème.
Non, mais c'est parce que j'ai éternué, donc je n'ai pas écouté.
Ah oui.
T'as enlevé le casque.
C'est bon, ça.
Excellent. Excellent. Oui, donc il est quatrième à la race, Sarah.
Sarah.
Non, c'est pas vrai. Sarah, j'en apprends une bonne, là.
T'as travaillé à la com, à la fédé à une époque. Comment ça se passe ? Qui est désigné tireur au sort ? Là, c'est une personnalité. Tu crois pas qu'il faudrait...
Oui, comment on fait pour la choisir, tiens ?
Tu peux pas arranger quelque chose ? Non, comment...
Non, c'est des opportunités, c'est des personnalités ou des sportifs qui sont disponibles ou qui ont été dans l'actualité. Je sais pas trop. Là, peut-être que ça peut être un médaillé... ça peut être un médaillé des Jeux d'hiver, par exemple.
Oui.
Tu vois, on aime faire des passerelles entre les sports. Donc,
Jeux d'hiver, boules froides. Oh là, pardon, je m'égare. Non, oui. Ouais.
Ah oui.
D'accord, pourquoi pas.
Oui, oui. J'allais dire un joueur de foot. Non, mais il n'y aura personne de disponible.
Non.
Non, il n'y aura personne de disponible. Donc, non, pourquoi pas un médaillé des Jeux d'hiver.
Alors. C'est une bonne option. On verra si tu.
D'ailleurs,
non, mais
je
vous
pense...
rendez compte qu'on en est là. On en
je
est
pense
à
que
dire...
Guillaume Cizeron était déjà venu. Ils étaient avec Gabriela Papadakis.
C'est vrai,
ils étaient déjà venus.
Oui, je crois.
J'ai le souvenir, donc je ne suis pas sûre qu'il. Je ne sais pas.
Quentin Fillon-Maillet.
Je ne sais pas. Ouais, ou un biathlète, absolument. Et pourquoi
vous êtes
pas une femme.
D'accord avec moi, si Arthur Fils est dans la partie haut du tableau, on sera effondré. Hein, vous êtes d'accord avec moi.
Je sens que tu vas hurler lors du tirage, là, Enrico.
Moi, je serai en dépression,
comme il y a deux ans.
Jeudi soir. Hein.
C'est sûr, le podcast sera difficile derrière, évidemment. Mais oui, on va tous prier pour qu'il soit dans la partie basse, puisque Yannick Sinner sera dans la partie haute. Et ça sera une excellente nouvelle. Faites attention aux boules chaudes, les amis, à Roland. Ce qui fait évidemment de Sinner avec le forfait d'Alcaraz, le grand favori de ce Roland-Garros 2026. Il va aller en quête de ce premier titre qui lui manque tant sur la terre battue parisienne. Est-ce qu'il a progressé sur Terre, là, on le voit depuis plusieurs semaines, par rapport à l'année dernière, Sarah?
Alors, à Madrid, c'était pas flagrant. Moi, c'est les progrès que j'ai vus, c'est lors de la finale à Monte-Carlo face à Alcaraz. Où là, j'ai effectivement senti un Yannick Sinner un peu plus patient, surtout excellent au retour. Alors peut-être qu'il avait travaillé particulièrement ses retours face à Alcaraz, parce qu'on sait que l'un et l'autre travaillent aussi pour battre,
par rapport à l'autre,
pour se battre l'un et l'autre, effectivement. Là, je sais pas, je le trouve pas, je le trouve pas monstrueux.
Alors, moi, j'attends de voir Rome.
C'est Madrid, ça vole.
Parce qu'à Madrid, c'est toujours particulier.
Exactement. Et Rome, les conditions sont celles qui sont le plus proches de Roland-Garros. Donc oui. Mais j'ai pas été bluffée par le tennis. J'ai envie de dire, c'est la routine, quoi. Voilà.
Eric.
La routine.
Bah moi, je fais amende honorable parce que j'étais convaincu qu'il jouerait pas Madrid. Alors je me demande s'il n'a pas eu un coup de pression de la part de l'ATP à partir du moment où Alcaraz et Djokovic ont déclaré forfait.
Oh bah alors ouais, non, alors ok, il a, mais alors je vois pas Sinner céder à une forme de pression, que ce soit de l'ATP. Hein.
Alors d'accord. Alors,
j'ai du mal à imaginer ça.
Donc il veut marquer l'histoire et il est en train de le faire, parce que là, s'il remporte ce Masters 1000, ça va faire combien, 5 à la file. Tu te rends compte? Vous vous rendez compte?
Énorme.
Paris la Défense, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, waouh. Mais ce qui me gêne quelque part, et est-ce qu'il en fait un peu trop, parce que là il va arriver avec une pancarte énorme à Roland-Garros, et c'est un truc qui m'est revenu un peu en mémoire, c'est que ça me fait penser à la situation de Roland-Garros 2009. Vous vous souvenez quand Rafa Nadal est sorti par Söderling, tous les regards sont braqués sur Federer en disant bah, ça y est, il est pour lui le tournoi. Et le lendemain, il a un match, mais terriblement compliqué contre Tomias. Et je me souviens de sa conf de presse à Federer, qui s'en était sorti un peu par miracle. Et on lui a dit, mais c'est sûr que l'élimination de Rafa change beaucoup de choses. Et je l'avais trouvé ultra tendu, quoi. Et c'est
oui,
une situation
mais alors là,
qu'il va devoir gérer, Sinner.
Oui, mais il ne la gère pas à Roland-Garros. Je veux dire que là, il a quelques semaines pour déjà se mettre dans la peau du ultra-méga favori. Tu vois, c'est pas un coup
oui,
du
c'est
sort
pas, ouais,
pendant le tournoi où effectivement tout à coup, tu sais, t'as les caméras et puis tout à coup
dormir,
elles font un 90 degrés, clac, elles se tournent vers quelqu'un d'autre. Là, j'ai envie de dire, il a le temps un peu d'enfiler le costume du favori, de l'ultra favori, quoi.
Oui, c'est vrai. Mais écoutez, on va attendre avec impatience. On est à 3 semaines de ce tirage du tableau final. Il y aura les qualifications. Justement, en parlant de qualifications, on va s'arrêter un petit peu, les copains, sur le tableau de ces qualifs et les inscrits, puisqu'on connaît la liste désormais officielle pour ce Roland-Garros 2026.
RMC, cours numéro 1, Planète Bleue.
L'occasion de faire un petit point sur ce tableau des qualifs. Alors, on connaît la liste des inscrits pour le tableau final. Là, il n'y a pas vraiment de surprise. Morico, il y a deux choses à savoir, trois choses à retenir. C'est un, que Dimitrov et Goffin, ça ne sera pas le tableau final. Et Badosa aussi, qui va aller dans les qualifs. Il va falloir avoir un billet pour la semaine des qualifs. Hein.
Non, mais c'est vrai. Moi, je me posais la question à propos de Dimitrov. Est-ce qu'il aura le courage, entre guillemets, de s'inscrire en qualif? La réponse est oui, il est inscrit. Alors, on notera aussi que dans cette liste, il n'y a pas les noms de Monfils et Wawrinka. Ça veut dire qu'ils auront une wildcard.
Hein. Exactement. Voilà.
C'est limpide.
C'est fait.
Non, mais un garçon comme Goffin, que j'avais, et avec le recul, j'avais fait un petit podcast avec lui à Monte-Carlo. Et je lui avais dit, ouais, ça sera génial pour toi, tu vas finir à Roland. Il m'avait dit, mais sur le coup, je n'avais pas percuté. Si mon classement me le permet, et effectivement, il est hors cut, parce que l'an passé, il avait très bien joué, je ne sais plus où, peut-être à Munich, donc il est très loin. Donc ça veut dire qu'il est obligé d'envoyer un petit Bristol à Amélie Mauresmo. Est-ce qu'il aura une invite pour ses adieux, puisqu'il l'a dit, hein, c'est sa dernière saison?
Je ne suis pas sûr.
J'avoue que ça va être un cas d'école. Hein.
Il est quand même là en ce moment à l'Open guindé. Hein.
Il a perdu au premier tour à Aix aussi.
Et à Aix, il était à Open Langadé. Bon, ça c'est une exhibition. Et puis il était à Aix, premier tour.
Non, mais moi, Goffin,
ça ressemble pas.
C'est un garçon qui attire du public.
Les Belges.
Parce que. Et je
non,
trouve
mais
que.
Tu peux pas comparer.
Tu veux pas lui filer une wildcard tableau quand même là?
Non, wildcard qualif. Il a besoin d'une wildcard qualif.
Ah, ah d'accord.
Je ne suis pas sûr.
Ah bon?
Moi, je suis directeur du tournoi, je ne lui donne pas.
Ah, mais vous êtes dur. Vous êtes dur.
Moi, je ne sais pas trop.
Mais quelle est sa meilleure perf à Roland?
Bah, il a fait un huitième sa première année. Il perd sur Federer sur le Lenglen. D'ailleurs, je lui avais dit, ce serait génial que tu rejoues sur le Lenglen. Et en fait, le pauvre, il est à la rue, il est hors cut. Bref. Bon, un mot sur Florent Bax, qu'on avait fait aussi en podcast. Oui. Alors lui, il est très loin, malheureusement, puisque là, il vient de faire un quart de finale à Abidjan, mais le résultat n'a pas été pris en compte, puisqu'il n'y a pas de classement ATP cette semaine. Donc ça, c'est vraiment...
Merci
les Masters 1000 sur 12 jours.
Exactement.
Donc il aura besoin d'un petit coup de pouce, mais on sait que la Fédé attribue beaucoup d'invites à des jeunes. Je pense qu'un garçon comme Daniel Jade en aura une. Le petit Thomas Forel qui a battu justement Goffin à Aix, il en aura une. Donc les wildcards vont être très chers. Et puis pour les wildcards grand tableau, moi j'ai ma petite liste en tête. Bon, je pense que Bonzi en aura une s'il rentre pas.
Service rendu.
On vient d'enregistrer un deuxième forfait pour Roland, hein, Drag Draper. Bonzi en
donc
aura
ça veut
une,
dire
je pense.
Ça veut dire que Bonzi, il est un dehors aujourd'hui.
Voilà, il doit être un dehors. Donc ça risque de rentrer. Parce que,
ouais. Parce Bonzi, il est un dehors.
Il est un dehors puisqu'il y avait Arnaldi devant. Non, il est un dehors.
Oui, il est un dehors du coup.
Mais à la première liste, il était deux dehors. Là, si tu viens de me dire qu'il y a un autre forfait, il est un dehors maintenant.
D'accord.
Oui, parce que Draper, c'est tout récent, Eric. C'est pas.
Oui.
Je pense que Draper, c'est pas encore retiré officiellement. Il l'a mis sur son réseau social, mais il n'a pas encore prévu.
Vérifie pendant que tu nous parles, vas-y.
Donc j'oublie Bonzi. Je pense que Drogué, Géa.
Gaston.
Après, il y a Gaston, il y a Jacquet et Kwame, point d'interrogation. Qui peuvent en avoir une, voilà.
Oui, c'est vrai.
Et après,
il y a Wawrinka.
Mon fils.
Et Gaël, il
la wildcard
pas
australienne et la wildcard américaine.
Oui, mais
et chez les filles, non, la tête d'affiche, ce sera Badoza. Ce sera fantastique de la voir. Enfin, fantastique entre guillemets, bien sûr. Mais ça fait drôle de voir. Elle était deux mondiales, hein, Sarah, c'est ça. Hein. Oh, tu te rends compte. Venir faire les qualifs à Roland.
Wow. Ah, ça va être pas mal, ça. C'est avec dur. Peut-être beaucoup de monde et beaucoup de supporters, parce qu'en général, elle est quand même très suivie. Alors, les amis, là, pendant que tu parlais, Eric, j'ai refait la liste. J'ai pas l'impression de voir Draper
dans la liste.
Dans la liste des inscrits. Hein.
Là, donc, il s'est déjà désinscrit, donc ça voudrait dire qu'il y ait deux dehors.
Alors, je regarde pendant que je vous parle, mais il m'a pas semblé...
Non, il y était.
Bah là, il n'y est pas. Je suis sur la liste grand tableau. Bon, on vérifiera. De toute façon, c'est soit un dehors, soit deux dehors. Hein.
Parce que souvenez-vous, il y avait juste un garçon qui ne s'était pas inscrit pour Roland, c'était Arthur Cazot. C'était le seul. Tous les autres sont inscrits automatiquement.
Et là, sur la liste officielle du tableau final, Benjamin est donc un dehors.
Un dehors. D'accord.
Okay. Premier joueur en attente et deuxième joueur en attente, Stade Wawrinka.
Ah
ouais, ça, donc ce serait bien, parce que s'il libère une wildcard, Stan, c'est, ça vaut cher. Hein,
ouais.
Ah oui.
Pour un joueur français.
C'est très intéressant. Écoutez, on va suivre ça. On va voir un peu les dernières perfs. Parce que c'est vrai que sur le tableau des qualifications, il y a des joueurs. Là, il y aura énormément de Français, comme d'habitude. Mais il y a des joueurs qui... On pense à Thibaut Droguet, Arthur Géa, Hugo Gaston.
Chez les hommes, les hommes, il y en aura beaucoup.
Oui, chez les filles, ça sera peut-être un peu plus compliqué.
Il faudra quand même qu'on se pose la question quand même un jour.
Écoute, j'ai fait une interview il y a très peu de temps avec Didier Rothière, le DTN, justement sur l'état du tennis féminin. Et avec Eric, on se disait qu'on allait faire un épisode spécial avec toi, Sarah, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et à redire et à analyser sur les nouvelles stratégies mises en place, la fin du centre de Poitiers, etc., qui peuvent permettre un jour de retrouver peut-être un haut niveau digne de ce nom dans le tennis féminin.
Exactement, parce que les décisions qu'ils prennent aujourd'hui, les résultats, on ne les verra pas avant une dizaine d'années.
Exactement.
Donc, il ne faut pas se rater. Hein.
Exactement. Pour finir cette planète bleue, les copains, je voulais juste parler avec vous de Louise Boisson, qu'on a vu sur le terrain pour la première fois depuis si longtemps du côté de Madrid pour sa reprise. Ça n'a pas été très concluant en termes de résultats. Est-ce que vous êtes inquiet, pas inquiet? Est-ce que vous attendez de l'avoir un petit peu plus à Rome? Parce que il y aura encore une fois très très peu de matchs avant Roland Garros. Sarah.
Inquiet, je ne sais pas si c'est le bon adjectif, mais Je suis pas rassurée, mais en même temps, c'est tout à fait normal. On revient pas comme ça de 6 mois d'absence, de blessure et jouer son meilleur tennis. Donc, je suis pas trop étonnée. En revanche, elle avait déclaré qu'elle voulait enchaîner pas mal de matchs et elle a zappé le 125 000 qu'elle voulait faire en Espagne. Donc, elle va se représenter à Rome, donc avec des matchs qui sont, j'ai envie de dire, de très haut niveau tout de suite. Finalement, un niveau qu'elle a quitté, 6 mois avant, mais elle n'en avait pas joué tant que ça des matchs à ce niveau-là. Donc reprendre tout de suite par ce type d'opposition, je me pose la question en fait, pourquoi elle n'a pas été jouée ce 125 000 là si elle joue à Rome et qu'elle perd tôt, elle veut jouer un 125 000 à Parme. Mais dans l'approche, rejouer tout de suite les gros tournois. Je comprends pas trop la stratégie en fait. Voilà. Moi, de mon point de vue, j'aurais commencé par jouer des plus petits tournois face à des joueuses finalement avec un niveau moindre qui te permet encore d'avoir des ajustements. Même si tu joues pas un bon tennis, tu peux essayer
tu
avec
peux
la volonté de t'en sortir.
Ouais.
Là, tu dois faire un match plein, sinon tu passes pas quoi.
Eric.
Écoute, oui, j'avoue que moi je pensais que c'était une bonne idée d'aller jouer ce petit 125 000 en Catalogne. Bon, l'équipe a dû réfléchir, mais voilà, je suis sur son statut Instagram et je vais vous lire ce qu'elle a déclaré en anglais. Under construction, battling daily, time will tell, elephant skin, lion heart.
Bon. Ah oui.
Elle est en pleine préparation, elle se bat tous les jours, le temps nous dira. Mais ce qui est bien, c'est.
C'est pas super rassurant ton truc, parce que si tu lis entre les lignes,
pas,
c'est qu'il y a encore des petites douleurs.
Ouais,
bah moi, ce que je comprends entre les lignes, ce que je lis entre les lignes, c'est qu'il y a encore des petites douleurs. Hein. Ouais, battling
voilà.
Daily, c'est que.
Cœur de lion.
Tu pas tes journées.
Ouais. Peau d'éléphant. Bon. Ouais. Écoute, on aura une réponse à Rome, effectivement. Mais là, le contre-la-montre, le tic-tac devient inquiétant parce qu'elle peut jouer Rome, Parme et éventuellement Strasbourg avec une wildcard.
Ouais, Strasbourg,
ça peut être juste.
Elle est déjà engagée à Strasbourg. Hein.
Oui, elle est dans la liste.
Elle n'est pas dans la liste parce que, non, elle est hors cut pour l'instant. Mais bon, j'imagine que si elle veut jouer,
oui,
elle aura une wildcard.
Elle aura une wildcard.
Oui, oui.
Bon, après la liste, elle va descendre au fil des jours, bien sûr. Mais
oui,
elle va
pour
descendre.
Pour l'instant, le cut, elle est hors cut.
C'est 41. C'est 41.
Voilà, bon, tu vois, elle était juste derrière.
Ouais, donc
mais je pense que ce serait une bonne idée de jouer Strasbourg quand même.
Bah,
même avec
si
les mêmes balles,
pour
avec
plein
les mêmes balles, la même terre.
Non, mais même de pas traîner à Roland-Garros trop avant. C'est surtout d'aller jouer des tournois et de
bien
pas
sûr.
Être à Paris parce qu'il va y avoir une telle attente, une telle pression qu'il vaut mieux essayer de s'extraire un peu de tout ça pour garder un peu d'énergie, quoi.
Non, parce que tu as raison, Sarah. À partir du moment où elle va mettre le pied à Roland, elle sera obligée
voilà.
de s'entraîner sur le central, parce que évidemment,
elle va
sera
être obligée, même
sur le
si
central
tu,
ou le Linglen.
Même si tu refuses les sollicitations médiatiques, à un moment, tu vas devoir, et puis tu t'entraînes pas à huis clos. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens autour
bien
de
sûr.
Toi. Et encore une fois, on a quitté une jeune femme qui est montée en flèche, mais qui n'avait que très peu d'expérience. À un niveau top 30 mondial, qui avait peu d'expérience de jouer sur les grands cours, qui avait peu d'expérience médiatique. Donc en fait, on la quitte comme ça, mais en 8 mois, elle n'a pas appris de ça en fait. Elle est retournée dans son anonymat qu'elle avait avant Roland-Garros. Donc là, elle se replonge dans une forme d'attente médiatique, ce qui n'est pas du tout le cas d'Arthur Fils en fait. Il était déjà rompu à ça. Donc lui, il a à se concentrer sur son tennis. Elle a le tennis à se concentrer, les douleurs à appréhender, et puis cette pression médiatique qu'elle doit, elle doit en faire quelque chose, quoi. Et cette donnée-là, déjà dans le tennis féminin, on sait que émotionnellement, ça joue beaucoup sur ta qualité de tennis. Mais quand t'as pas d'expérience, je sais pas si elle a un masque à oxygène quand elle se lève le matin, mais c'est pas facile de jouer juste son tennis. On peut pas dire qu'elle va juste jouer son tennis aujourd'hui. C'est pas vrai. Il y a trop d'attentes.
Oui, c'est sûr que tout ce qui s'est passé l'année dernière sera.
Nous, on n'a pas oublié. Ses adversaires,
elles
s'en fichent
complètement. Pas oublié, je pense. Le grand public français
Exactement.
N'a pas oublié. Et tout le monde
Les
sera
Français
ravi.
N'ont pas oublié.
Et elle jouera sur le Châtrier, Monrico, évidemment, tu le sais, pas sur le Langlène. Donc, Donc, donc il y aura beaucoup d'attentes autour de Loïs Boisson. On finit, avant de passer au jeu de la semaine de notre ami Flavien Ziolkowski, le producteur de cours numéro 1, par un petit coup de gueule, et c'est le moment de notre Rico Salio.
Alors, je vais la raconter, l'anecdote.
Mais ça n'a rien à foutre, moi, de cette anecdote.
J'ai oublié son nom, comment elle s'appelle. Oh, c'est pas grave. Bon, en tout cas, elle a gagné.
Anecdote coup de gueule, cette semaine, mon Rico, tu n'as pas aimé et tu n'aimes pas les night sessions madrilènes.
Non, mais c'est une grande tradition. Madrid se moque un peu des joueurs, mais c'est vrai qu'ils ont un style de vie particulier en Espagne. Ils mangent tard, donc vous avez vu sûrement les programmations à Madrid. Il y a 3 matchs au central et puis à partir de 20h, 2 night sessions. Donc, ce qui nous a amené à des programmations complètement loufoques. Je crois que notre ami Zverev, quand il a joué son match, son 8e de finale, il est rentré sur le court à 23h. Il avait presque eu le temps de voir tout le match PSG-Bayern de Munich, ce qui est juste incroyable. Et je ne sais pas si vous avez vu la déclaration de Yannick Sinner, qui a mis quand même un petit tacle aux ordinateurs en disant que ce n'était pas correct de lancer des matchs à 20h. Donc, si Yannick Sinner s'en mêle, c'est que ça grogne dans les vestiaires. Mais voilà, c'est l'Espagne. Moi, j'ai une anecdote assez incroyable. La dernière fois qu'un Français avait fait quart de finale, c'était Joe Tsonga. J'y étais là-bas. Le match était terminé à 1h du mat. Donc voilà. C'est un manque de respect total pour les joueurs. Et je croyais qu'il y avait une règle de l'ATP pour empêcher le lancement des matchs tardifs. Visiblement, ils s'en moquent royalement. Et voilà, mais c'est l'Espagne.
Normal, les Masters 1000, c'est ce qui fait le business de l'ATP, non ?
Absolument. Hein ? Et puis, et là, Sarah va peut-être bondir, mais c'est une anecdote qui est totalement vraie. L'année où Amélie fait demi-finale à Madrid, elle avait été programmée à 11h. Je crois que c'était contre Wozniacki, si mes souvenirs sont bons. Et alors, le truc qui était insensé, c'est que l'ouverture des portes du stade, c'était 11h30. Donc, imagine le manque de respect pour les joueurs et les joueuses, surtout à l'époque. Amélie, au micro derrière, évidemment, avait envoyé un petit missile. Mais voilà, mais c'est l'Espagne. Je trouve dommage qu'on n'arrive pas à s'entendre. Roland Garros, on le sait, va fonctionner avec 3+1, savoir 3 matchs en day session et une night session. D'ailleurs, la question n'a pas été posée à la présentation. Anthony, tu as remarqué. Amélie était un peu floue.
Si,
bon,
il y allait avoir une night session féminine.
Non. Enfin, ça, on a tous la réponse, mais je ne sais même plus à quelle heure est le coup d'envoi de la night session maintenant à Roland, puisque la question n'avait pas été posée.
C'est 19h45, normalement. 19h45,
première balle à 20h, c'est pas ça ?
Oui, et donc c'est walk on, le walk on court, il doit être à 19h55, voilà. Et bon, je pense que le court à 19h45, il y a le petit spectacle ou le show de preview de la night session. Mais 20h, j'ai envie de dire, tous les sports commencent à 20h. Le foot se joue à 21h, enfin 20h. Les matchs de rugby se jouent à 20h.
Bien sûr, mais tu compares des sports dont on connaît l'heure, globalement.
Oui, globalement, mais ce que je veux dire, c'est faire... Oui, mais ce que je veux dire, 20h, c'est raisonnable. 20h, c'est raisonnable.
Oui,
c'est
un match.
C'est une Oui, pour un match, pas pour deux. On est tout à fait d'accord. Voilà. S'il y avait deux matchs, il faudrait commencer à 19h.
C'est ça.
Il faudrait commencer à 19h s'il y a deux matchs. Pour s'assurer
comme ils font à Melbourne. À New York.
Exactement.
Ouais, mais notre culture à 19h, nous, on est à l'apéro, quoi. Tu vois.
C'est faux.
C'est à l'apéro. Pas faux.
Non, puis moi, je trouve que tu dénaturais le jeu en programmant autant de matchs en night session. C'est plus le même jeu sur ta battue la nuit et le jour.
Oui, c'est vrai.
Personne ne voulait jouer en night session, Sarah. Tu te souviens, le bazar, Guy Forget était en train de... Il était presque à l'ONU pour essayer de trouver des solutions. Non, mais c'était horrible.
Oui, mais c'est comme tout changement. C'est-à-dire que quand Roland Garros a innové en commençant son tournoi un dimanche, personne ne voulait jouer le dimanche. Enfin, tu vois, là aussi, il est monté à l'ONU. Tu as l'impression que tu leur mettais le couteau sous la gorge de commencer un dimanche. Mais comme chaque chose, ils sont bien contents de voir le prize money qui augmente. Donc, si le prize money augmente, c'est qu'il y a des jours supplémentaires. Si le prize money augmente, c'est qu'on a une night session, donc on a une double billetterie. Enfin, ce que je veux dire, c'est pas anodin. C'est les joueurs en profitent d'une manière ou d'une autre, quoi.
Exactement. Allez, c'est l'heure du jeu, les amis. Il vient d'entrer dans ce studio.
Oh, ça fait du bien. Oh, c'est comme fils. Je me sens libéré.
Je m'en souviendrai de cette embuscade. Je m'en souviendrai.
Ah, oui. Quel quiz mémorable.
Il est encore là, lui. Il existe toujours, le trou, là.
Eh oui, il est là. Il rigole déjà. Salut, Fabien.
Salut, les amis. Comment ça va?
Je te salue pas.
Hello. Oh,
merci, Eric. Je t'en
prie. Je salue au passage ta prestation sur cet épisode spécial Alcara.
Bien sûr, un micro, deux énergumènes, une cabine, et puis ça suffit.
Hein, et 22 minutes de plus.
Pas de quiz aujourd'hui.
On a battu tous les records.
Pas de quiz aujourd'hui, car je voulais faire un tu préfères avec Sarah et Eric.
D'accord. Okay.
On va partir sur un
Sarah,
grand tableau.
Sarah, elle est déçue, elle avait toutes ses notes devant elle, là.
Non, alors,
on fera un quiz
truc,
quand Sarah viendra en studio.
Exactement, et parce que je me fais taper sur les doigts tous les week-ends pour les grandes gueules du sport où je dois fermer mon ordinateur. C'est absolument... Je travaille deux fois plus. C'est-à-dire que ce que je mets sur mon ordi, je dois le mettre sur mon carnet pour montrer que je ne suis pas sur Internet. On marche sur la tête.
Voilà, tu t'en sors pas mal dans les grandes gueules.
C'est la NASA.
On va partir sur un grand tableau de dingo, hein, où il y a les plus grands joueurs de tennis actuels ou passés qui se mêlent et s'affrontent. Donc vous allez devoir choisir, Sarah et Eric, le gagnant du duel, selon votre sensibilité, ou alors qui selon vous est le plus fort. Et en cas d'égalité, en cas d'égalité, c'est Anthony qui sera là pour départager. Donc je vais vous donner...
C'est mon cerveau. J'ai tout compris dans mon cerveau.
Je vais vous donner je vais vous donner le premier huitième de finale. Ok.
Ok.
Arthur fils ou Gaël mon fils, Eric?
Arthur fils.
Sarah?
Arthur fils, oui.
Arthur fils, non.
Elle a toujours pas tout compris, je crois, ça.
Non, j'ai pas tout compris, mais
Préfères, on fait un tu préfères. Tu préfères Arthur fils ou tu préfères Gaël mon fils?
En huitième de finale.
En huitième de finale. De Roland Garros?
Quel tournoi.
Bah Roland Garros, là, pour le coup.
De n'importe quel tournoi, de votre sensibilité, de la carrière de.
D'accord.
On peut se projeter. On peut se projeter
Gaël.
Ah, donc.
Oui, mais ça peut être du passé.
Oui,
ça
exactement.
Peut être du passé.
Exactement.
Bah, Gaël.
Donc ça fait un partout, Anthony, Arthur ou Gaël?
Arthur fils.
Ensuite, la deuxième huitième de finale. David Nalbandian ou Gustavo Kuerten?
Bah, Guga.
Eric.
Malade.
Nalbandian.
On est toujours en huitième là.
Nalbandian.
Ouais, n'importe
J'adore
quoi.
J'adore Nalbandian.
Ah, c'est Anthony qui choisit encore.
Entre les deux, mon cœur balance.
Tu prends pas Guga, tu vas te faire tuer par.
Nalbandian.
Ah non, mais tu peux pas. Mais vous êtes.
Mais si, option multisurface.
C'est ça qui est
Nalbandian.
C'est ça qui est non.
Guga que sur Terre, évidemment, mais.
Ensuite... Parce qu'il y avait un gros bidon, ça nous rappelle nous, tu vois.
Bon, je
mais
pense
la
que là.
La classe de Guga. Mais c'est pas possible.
Mais on sait, t'es un
classe,
peu amoureuse.
La manière de se. Bah ouais.
C'est ça, c'est rageant. Rafael Nadal ou Yannick
Sinner? Bon, là, si tu mets Berdych Korda, je mets Berdych aussi. Hein.
Rafael Nadal ou Yannick Sinner?
Oh bon.
Ah bah, Sinner. Oh, Sinner.
Sinner pour Sarah, Eric.
Ah bah oui, évidemment.
Nadal.
Mais c'est incroyable, je pensais pas que Anto allait donner le point à
Nadal.
Fois. Nadal, évidemment. Évidemment.
Mais
évidemment.
Non.
Donc en fait, pour Sarah, on aurait pu avoir un Sinner Guga.
Ouais.
Carlos Alcaraz, Carlos Alcaraz ou Andy Murray? Eric.
Oui.
Alcaraz ou Andy Murray, Sarah?
Bah plutôt Alcaraz, ouais.
Allez, Alcaraz. Ouais. Ensuite, Roger Federer ou Pete Sampras?
Pete.
Roger.
Oh, c'est dur.
Sampras.
À toi de départager Anto.
Federer.
Non mais tu lui as filé un chèque, vous faites quoi?
Pas du tout, il y a rien à gagner, c'est juste je voulais tester un truc.
Ça c'est ce que tu dis, qu'il n'y a rien à gagner, ça c'est ce que tu dis.
Novak Djokovic ou André Agassi? Eric.
Alors là moi,
Novak Djokovic ou André Agassi?
Aïe.
Ouais, c'est un tableau de dingo. Djokovic. Sarah?
Je vais mettre Agassi.
Oh là.
À la fin on aura le GOAT, hein. Forcément.
Aïe. Ça veut dire que t'éliminerais
soit
Djokovic dès les 8e. Oh mama.
Et ben André Agassi aussi, c'est incroyable.
Ah, on peut pas, c'est le recordman
Djokovic.
Djokovic.
Ensuite, Juan Martín Del Potro ou Andy Roddick?
Oh, Del Potro.
Ouais, Del Potro.
Del Potro.
Ouais, je suis d'accord, ça.
Ouais, Del Potro.
Et forcément, ils font un peu de français. La dernière. Joe Wilfried Tsonga ou Richard Gasquet?
Oh là là.
Bah Eric, on sait ce qu'il va mettre.
Mais Eric, s'il est fidèle à ses convictions.
Eric, une réponse.
Bah oui.
Joe Wilfried Tsonga ou Richard? Gasquet.
Richie, oui.
Bah, dis pas, Eric, dis pas, allez, Richie, tu dois dire tout de suite Richard Gasquet.
Donc ensuite,
et je te suis.
Donc ensuite, voilà. Ça veut dire
suite
que
du tableau, je pense que Joe a plus de chance contre les autres, tu vois.
Premier quart
mais
de finale.
Mais ça dépend sur quelle surface.
Ouais, c'est ça.
Mais après, c'est sur leur carrière également, c'est sur ce qu'ils peuvent démontrer. Premier quart de finale, c'est Arthur Fils, Nalbandian, vous choisissez qui?
Oh.
Bah, Fils.
Fils.
Et ça, ça
incroyable un match.
Fils, il va être le GOAT.
Franchement,
Fils, Nalbandian. Tu payes pour aller le voir au stade.
Deuxième quart de finale, Nadal ou Alcaraz?
Oh,
maman.
Alcaraz.
Quand Eric fait, oh, on a l'impression que tu sais, c'est un revers long de ligne et que ça passe, c'est incroyable. Oh, elle
Nadal
a touché. Alcaraz pour Sarah, Nadal pour Eric.
Aïe, 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 aïe.
T'imagines si toutes les époques se mélangeaient, ce serait incroyable. Ah, Nadal ou Alcaraz?
Alcaraz.
Alcaraz. <C'est fou. rire> Ensuite, Federer ou Djokovic? Oh. Eric, Sarah.
Djoko.
Sarah, elle hésite pas, hein. Elle y va direct, hein.
Non, mais.
Eric.
Djoko.
Djokovic.
Oh.
Ensuite, Del Potro ou Richard Gasquet?
Bah, Gasquet.
Bien sûr.
Del Potro.
Gasquet,
Eric.
Demi-finale, Fils ou Alcaraz?
T'as dit quoi?
Arthur Fils ou Alcaraz. Carlos Alcaraz?
Demi-finale.
Alcaraz.
Alcaraz.
Alcaraz. Et ensuite Djokovic ou Gasquet?
Oh non, là on peut pas dire.
Bah, Djoko, soyons raisonnables.
Il a savé.
Et donc, pour avoir le GOAT, justement, ça nous amène cette finale entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, selon vous, pour être le GOAT.
Ah bah ouais.
Eric, Sarah. Carlos Alcaraz ou Novak Djokovic?
Djokovic, à l'heure où on se parle, Djokovic. Et si tu nous refais le même jeu dans 5 ans, bah on te dira Alcaraz. Voilà.
Ah, t'es sûr?
J'ai une image en tête, c'est la finale des jeux, donc je garde Djoko.
Djokovic, le GOAT.
Et comme quoi.
Et voilà. Donc Djokovic, le GOAT de cours numéro 1.
Mais oui.
Oui, voilà. Djoko, toujours là, toujours seigneur. Et peut-être demi-finaliste à Roland-Garros, sait-on jamais, dans quelques semaines. Merci mon Flavien.
On va essayer de peut-être faire un tu préfères avec les dames, aussi
ouais,
avec Sarah, pourquoi
ouais, très
pas.
Bonne idée.
On verra ça.
Très bonne idée.
Et ouais, merci à vous les amis. Ça.
Un bon format qu'on va peut-être conserver.
D'accord, hein, s'il te plaît.
Allez, merci les amis pour cet épisode de cours numéro 1. Faites chauffer les cordages, faites chauffer les chaussures terre parce que là, les choses sérieuses commencent vraiment. À très bientôt sur RMC. Ciao, ciao.
RMC,
cours numéro 1.